You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 15 août. En Australie, les hommages se multiplient pour Michael Haddon qui a succombé à l'attaque au couteau d'un déséquilibré dans le centre de Sydney mardi. En pleine guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, les exportations de l'Australie vers la Chine s'envolent. Et à Hong Kong, le trafic aérien reprend progressivement après 2 jours de blocage, mais les tensions, elles, persistent. Et on commence ce journal avec les nombreux hommages qui sont rendus en l'honneur de cette jeune femme de 24 ans qui a été tuée par un déséquilibré mardi dans le centre-ville de Sydney. Michael Haddon, c'est son nom, est décrite par ses proches et ses amis sur les réseaux sociaux comme une personne qui était gentille et généreuse. Et de son côté, la sœur de son meurtrier présumé qui a donné une interview à la presse a présenté ses excuses pour ce qu'a fait son frère. On l'écoute.
In the past week, it's obvious that he's had a steep descent into insanity, I guess. I can't make it better for anyone else, and I wish I could. I just want to say sorry to the family, sorry a million times, sorry for everything.
Et on prend maintenant la direction de Tuvalu, où se déroule actuellement le Forum des Nations du Pacifique et où Scott Morrison est arrivé hier. Le Premier ministre australien est sous la pression de tous les autres pays qui attendent de l'Australie qu'elle s'engage plus fortement pour la protection de l'environnement. Avant de prendre l'avion pour Tuvalu, mercredi, Scott Morrison avait annoncé une aide de 500 millions de dollars à destination de ces micro-États qui sont les plus directement menacés par le réchauffement climatique. Il ne devrait en revanche pas faire la moindre concession sur la question du charbon qui reste une part essentielle de l'économie australienne puisque c'est à la fois son premier produit d'exportation mais aussi et de très loin sa première source de production d'électricité. Alors aux dernières nouvelles, lui et les négociateurs australiens qui sont sur place redoublent d'efforts pour effacer toute mention à la sortie du charbon dans le communiqué final de ce forum. Scott Morrison l'avait d'ailleurs annoncé hier à son arrivée à Tuvalu, il est prêt à avoir des conversations tendues avec les dirigeants des sous-pays, des autres pays, pardon, de la sous-région.
You're going to step up, you're going to show up, and Australia's going to show up. And we're not just going to show up here, we're going to show up for the hard conversations, the good conversations, the family conversations that we have, and that's very much the spirit in which we're engaging.
Et en plus, cette année, Scott Morrison ne pourra pas compter sur son allié traditionnel au sein de ce forum, puisque la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, qui est également sur place, a elle aussi appelé à des actions plus fortes pour endiguer le changement climatique. Une déclaration qui visait, à mots à peine couverts, l'Australie.
We will continue to say that New Zealand will do its bit, and we have an expectation that everyone else will as well. We have to. New Zealand, relative to other nations, has a relatively small emissions profile. However, if we all took the perspective that if you're small, it doesn't matter, we wouldn't see change.
Et puis un mot maintenant sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et qui, bonne nouvelle, semble profiter à l'Australie. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans l'Australian Financial Review qui explique que la Chine est plus que jamais dépendante des matières premières australiennes comme le gaz naturel liquide, le fer ou encore le charbon à coke qui sert à fabriquer de l'acier. Quelques chiffres pour illustrer cet état de fait. L'Australie a fourni cette année 74% du fer importé par la Chine, soit quasiment le double de l'an dernier, 46% du GNL ou encore 40% du charbon à coke. Résultat, les exportations australiennes vers la Chine sont cette année en hausse de 18% et atteignent un montant record, 118 milliards de dollars. Et puis il n'y a pas que les matières premières qui profitent des tensions sino-américaines puisque c'est également le cas du secteur viticole. Dans un rapport publié par Rabobank et dont le Sydney Morning Herald a parlé la semaine dernière, les vins australiens représentent désormais plus de 25% des vins importés en Chine. Ils sont passés devant la France et profitent en fait surtout des très nombreuses taxes qui ont été imposées ces derniers mois sur les vins américains. Aujourd'hui, à qualité équivalente, les vins américains coûtent désormais 65% plus cher une fois arrivés sur le marché chinois que les vins australiens. Et direction maintenant Hong Kong, où le trafic aérien a doucement repris à l'aéroport. En revanche, le climat reste tendu, même très tendu, alors qu'en Chine, la propagande officielle qualifie les manifestants pro-démocratie de terroristes. Reportage sur place avec l'envoyé spécial de RFI, Christophe Paget.
Peu de traces de la folie des derniers jours au terminal des embarquements. Les voyageurs se pressent pour ne pas manquer leur vol et la buvette déroule tranquillement, un fond sonore vaguement rythmé. Au milieu d'un grand rectangle d'affiches dénonçant les violences policières, une vingtaine de manifestants, leur fureur était intacte au réveil après une nuit agitée. Ça fait là depuis 3 jours.
Plusieurs des nôtres ont été arrêtés hier soir parce qu'un policier chinois s'est infiltré parmi nous dans l'aéroport, déguisé en manifestant. Il essayait de nous prendre en photo, d'initier des disputes entre nous, nous pousser à empêcher les voyageurs de s'enregistrer à l'aéroport. Lorsqu'ils l'ont exfiltré, un policier a attrapé l'une des nôtres. Nous sommes venus à son secours. Et il a dégainé son arme vers nous, vers le public, dans l'aéroport international. C'est inacceptable.
Les voyageurs s'arrêtent, prennent des photos, des affiches. Un Hongkongais part en vacances en Australie avec sa famille. Sa femme et lui soutiennent les manifestants à 100%.
Tout ça, c'est la faute du gouvernement. Ils connaissent les demandes des manifestants. S'ils y répondent, tout ira bien. C'est simple. Et donc oui, je suis d'accord avec les manifestants et je dis ça en tant que citoyen hongkongais.
Tout dépend de la police du gouvernement. Leur réponse n'est pas appropriée.
C'est à cause de la chef de l'exécutif, Carrie Lam. Tout le monde le sait. Qu'elle parte. Tout le monde lui demande de partir. Que quelqu'un soit tenu responsable de tout ça, n'est-ce pas?
Christophe Paget, Hong Kong, RFI.
Et on va maintenant en Russie et plus précisément dans le village de Nienoksa, dans le nord du pays. Ce village qui se trouve à proximité de l'endroit où s'est produit il y a quelques jours une explosion lors du test d'un missile nucléaire a été évacué mercredi par les autorités pendant 2 heures. Sur place, les habitants s'inquiètent, faute de savoir précisément quelles pourraient être les conséquences de cet accident qui a provoqué une envolée des taux de radioactivité. On écoute le reportage de Jean-Didier Revoin pour RFI.
Le mystère s'épaissit autour de l'incident nucléaire qui s'est produit à proximité du centre d'essai de la flotte militaire russe le 8 août. De 5 à 7 heures ce matin, les habitants de Nienoksa ont été priés de quitter le village en raison de ce que les autorités ont qualifié d'opération planifiée, sans toutefois qu'il n'existe d'informations officielles sur un nouveau test. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a refusé de confirmer que l'incident concernait le missile Bourevestnik, Skyfall, selon la classification OTAN. Et une semaine après les faits, l'inquiétude grandit auprès des habitants qui ne savent toujours pas ce qui a explosé et l'étendue des dommages pour l'environnement. La navigation, la pêche et la baignade sont interdites pour une durée d'1 à 3 mois dans différentes zones de la région, mais plusieurs scientifiques interrogés par les médias russes se sont montrés rassurants. La hausse temporaire constatée du taux de radioactivité ne présenterait pas de danger pour les habitants. Elle serait même inférieure au rayonnement qui touche les personnes qui passent 1 heure à 10 000 mètres d'altitude dans un avion ou lors d'une radiographie ou rayon X. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Et en Italie, le temps se couvre pour le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Le bateau espagnol Open Arms, qui compte à son bord 147 migrants, parmi lesquels 32 mineurs, a reçu l'autorisation d'accoster plus tard aujourd'hui sur l'île de Lampedusa. C'est là un désaveu pour Matteo Salvini, puisque cette autorisation fait suite à une décision judiciaire qui suspend un décret que le Premier ministre de l'Intérieur avait pris et dont l'effet était d'interdire à ce navire l'accès aux eaux territoriales italiennes. On fait le point avec Anne Lenier pour RFI.
Le cas du navire Open Arms constitue une double claque pour le ministre de l'Intérieur. D'abord, le tribunal administratif de Rome a accepté le recours déposé le 13 août par l'ONG espagnole contre un décret lui interdisant d'entrer dans les eaux italiennes, signé le 8 août par Salvini, chef de la Ligue, et les ministres 5 étoiles des Transports et de la Défense. Le tribunal a reconnu une violation du droit international en matière de secours en mer, et une situation d'extrême urgence pour les 147 migrants à bord du navire. Ensuite, dans le nouveau contexte de crise politique déclenché par Salvini qui a claqué la porte au nez des 5 étoiles le 9 août et réclame des élections anticipées, la ministre de la Défense lui a fait un beau pied de nez. Elle a demandé à 2 patrouilleurs de la marine militaire d'escorter jusqu'au port de Lampedusa le navire humanitaire malmené par la mer très agitée. Matteo Salvini a réagi en affirmant qu'il refuserait le débarquement des migrants sur le sol italien et qu'il déposerait un recours contre la décision du tribunal administratif devant le Conseil d'État. Anne Lenire, Rome, RFI.
Et un mot très rapide de sport pour parler de la Supercoupe qui s'est déroulée hier soir entre les clubs de Chelsea et de Liverpool. C'est ce dernier club qui a remporté le match sur le score de 2-2, mais ils ont fait la différence au tir au but. Je ne rentre pas plus dans les détails car vous en saurez beaucoup plus dans quelques minutes dans le magazine des sports. On revenait simplement sur ce match parce qu'il était véritablement historique puisque c'est la première fois qu'un match de ce niveau a été arbitré par 3 femmes, parmi lesquelles la Française Stéphanie Frappard. On fait maintenant un point rapide sur la météo de ce jeudi. Le soleil brille à Sydney où il fait 22 degrés. En revanche, le ciel est couvert à Melbourne avec 16 degrés. Il fait très beau à Brisbane où avec 25 degrés, on peut même aller jusqu'à tomber la veste. Soleil aussi à Perth, mais pour le coup, il ne fait que 17 degrés. 19 degrés à Adélaïde, des nuages à Cairns et 27 degrés. Grand soleil à Darwin avec 31 degrés. C'est beaucoup plus frais et humide à Hobart, en Tasmanie, avec 16 degrés. Et il fait 15 degrés dans la capitale fédérale, Canberra.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.